Et à l'écoute d'un programme en rediffus.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du vendredi 7 juin 2024. En République démocratique du Congo, ouverture du procès sur la tentative de coup d'État du 19 mai. Une cinquantaine de prévenus sont à la barre et risquent la peine de mort.
Parmi les personnes arrêtées, il y a évidemment une des figures les plus connues qui est M. Jean-Jacques Rondo, un expert sur les questions militaires en République démocratique.
Timothée Mbouya, avocat, nous en dira plus dans la partie magazine. Les tensions entre le Niger et le Bénin sont montées d'un cran après l'arrestation de 5 Nigériens dans le port de Sémé-Kodji. En Afrique du Sud, le nouveau Parlement doit se réunir d'ici une dizaine de jours pour élire le président, mais l'opposition est peu enthousiaste à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Fin des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, le président Joe Biden annonce une nouvelle aide de 225 millions de dollars pour l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. République démocratique du Congo, ouverture ce vendredi à Kinshasa du procès de la tentative de coup d'État que l'armée dit avoir déjoué le 19 mai. Une cinquantaine d'accusés, dont plusieurs étrangers, sont à la barre. Davantage avec Alexandrine Oloyon.
53 prévenus sont jugés, dont Christian Malanga, présumé cerveau de l'opération tué pendant l'assaut. Son fils, Marcel Malanga, de nationalité américaine, deux autres ressortissants américains et quatre femmes sont parmi les détenus. Un expert militaire, Jean-Jacques Wando, congolais, naturalisé belge, est aussi parmi les prévenus. L'audience se tient au tribunal militaire de Kinshasa, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo. Les chefs d'accusation retenus contre eux, ce sont entre autres attentats, terrorisme, détention illégale d'armes, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs et meurtre. Cependant, l'opacité autour des interrogatoires des présumés putistes est dénoncée par certains défenseurs des droits de l'homme. Pour rappel, le dimanche 19 mai, dans le quartier UP de la Gombe à Kinshasa, plusieurs dizaines d'hommes armés ont attaqué le domicile du ministre Vital Kamerhe, devenu président de l'Assemblée nationale, avant d'investir le palais de la Nation, abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Une autre enquête est menée sur des exécutions sommaires après l'opération, lorsque des militaires ont été filmés tirant sur deux présumés putistes désarmés, dont un qui avait sauté dans le fleuve Congo pour tenter de s'enfuir.
La Cour d'État du Niger a reporté aujourd'hui au 14 juin la décision qu'elle devait rendre au sujet de la levée de l'immunité du président Mohamed Bazoum, renversée en juillet 2023 par un coup d'État militaire après une demande de libération introduite par ses avocats. Il s'agit du deuxième report après celui du 10 mai, suite à une demande des avocats dénonçant des entraves aux droits de la défense. Les autorités militaires accusent M. Bazoum de complot, d'attentat à la sécurité et à l'autorité de l'État. Crime de trahison, fait présumé d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Au Bénin, 5 ressortissants nigériens, dont des agents du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont été arrêtés sur la plateforme pétrolière de Sémé-Kodji. Il leur est reproché de s'être frauduleusement introduit sur cette plateforme, propriété de la société chinoise West African Oil Pipeline Company, à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
C'est une montée des tensions entre le Niger et le Bénin avec cette arrestation de 5 Nigériens qui seraient passés par une entrée dérobée pour accéder à la plateforme de Sémé-Kodji, évitant de s'enregistrer à la DERIT. Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a indiqué que cela n'est pas légal.
Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO Niger dont ils arborent les badges et préciser qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la DERIT. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site.
Selon le procureur, il s'agit d'une affaire de sécurité.
L'enquête a formellement établi qu'au moins deux parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces personnes se sont fait confectionner pour la circonstance de faux badges d'employés de WAPCO Niger. Les investigations se poursuivent pour déterminer les motivations réelles des mises en cause. Dans un contexte où des informations récurrentes font état l'état de la planification d'atteinte à la sécurité de l'État du Bénin.
Niamey a réagi à l'annonce de l'arrestation de ses citoyens en menaçant de simplement fermer le pipeline. C'est le dernier épisode dans les relations tendues entre le Bénin et le Niger depuis le coup d'État. De Cotonou, Ginette Feuadandé pour VOA Afrique.
Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara s'est dite aujourd'hui déçue du rejet de sa candidature à la présidentielle, lors de laquelle le chef de l'État, Paul Kagame, sortant, brigue donc un quatrième mandat. La candidature de Diane Rwigara, 42 ans, a été invalidée par la commission électorale. Deux candidats, Franck Habineza et Philippe Mpayimana, ont vu leur candidature validée pour faire face à Paul Kagame. La liste définitive des candidats doit être annoncée le 14 juin. Les élections présidentielles et législatives se tiendront au Rwanda le 15 juillet prochain. Afrique du Sud, après avoir obtenu seulement 40% des voix aux législatives la semaine dernière, l'ANC négocie avec l'opposition pour former un gouvernement d'unité nationale. Cependant, la proposition du président Cyril Ramaphosa n'a pas été reçue à bras ouverts par tous les opposants. Nathalie Barge.
L'ANC, qui disposera de 159 sièges sur 400 à l'Assemblée nationale, a mené des discussions avec presque tous les partis d'opposition. Le président Cyril Ramaphosa a précisé que l'ANC a mené des entretiens avec l'IFF, le Parti des combattants pour la liberté économique, le Parti nationaliste Zulu Inkatha, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique ou encore l'Alliance patriotique anti-immigrés. Julius Malema, leader du Parti des combattants pour la liberté économique de la gauche radicale, a pour le moment rejeté l'idée. Son parti a remporté 39 sièges. Le parti nationaliste IFP, qui compte 17 sièges, affirme ne pas être en principe opposé à une coalition. L'Alliance patriotique, avec 9 sièges, dit garder l'esprit ouvert. L'Alliance démocratique ne s'est pas encore exprimée. Le nouveau Parlement doit se réunir d'ici une dizaine de jours pour élire le président qui devra former un nouveau gouvernement.
L'Union africaine a condamné aujourd'hui, dans les termes les plus forts, le massacre perpétré mercredi par un groupe de paramilitaires dans un village au Soudan, où environ 150 civils ont été tués sans discernement, dont au moins 35 enfants. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a exhorté la communauté internationale à mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à la guerre au Soudan, s'est dit alarmé par le fait que la situation dans ce pays continue de se détériorer et conduit à une faim aiguë, voire à une famine dans diverses régions du Soudan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, c'est la fin de 3 jours de commémoration du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie pour mettre fin à l'occupation nazie. Le point avec Rosine Monizero.
À l'occasion de la clôture de ces 3 jours de célébration du 80e anniversaire du débarquement allié, le président américain Joe Biden a exhorté les États-Unis à protéger la démocratie et à suivre l'exemple des héros de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'un discours prononcé sur une falaise du nord de la France, qui fut le théâtre d'une confrontation sanglante entre les troupes américaines et l'occupant allemand. Il a promis son soutien à l'Ukraine et a annoncé une nouvelle aide à la sécurité de 225 millions de dollars à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a participé aux commémorations et les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer à nouveau lors du prochain sommet du G7 en Italie. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine, qui n'a pas été invité, a estimé que de nombreux Européens veulent un retour aux valeurs traditionnelles, présentant la Russie comme le bastion de ses valeurs. Les élections à travers l'Union européenne pour élire 720 eurodéputés ont commencé jeudi aux Pays-Bas et pourrait déboucher sur une poussée des droites nationalistes en Europe.
Le sommet international sur la paix prévu les 15 et 16 juin en Suisse pourrait rapprocher l'Ukraine de la fin de la guerre, a estimé aujourd'hui le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans un discours devant les députés français à cette conférence internationale, sont invités plus d'une centaine de pays et d'organisations, mais pas la Russie qui a déclenché l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'exprimera devant le Congrès américain le 24 juillet. Olivier ont annoncé jeudi les chefs de file républicains au Congrès. Cette annonce intervient alors que les relations entre Benjamin Netanyahou et le président américain Joe Biden se sont tendues récemment. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine au Moyen-Orient pour promouvoir une proposition de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a annoncé aujourd'hui le département d'État. Monsieur Blinken, dont ce sera la 8e visite dans la région depuis le début du conflit le 7 octobre, ira en Israël, en Égypte, au Qatar et en Jordanie du 10 au 12 juin, a précisé son ministère. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Selon Bloomberg, le Nigeria veut suspendre pendant 6 mois les taxes d'importation sur plusieurs produits, dont les aliments de base, les médicaments, les engrais, la farine et les céréales, pour lutter contre l'inflation. Le Bureau national des statistiques indique que l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 28 ans en avril, pour s'établir à 33,69% en glissement annuel. Ecobank Transnational Incorporated va lever jusqu'à 600 millions de dollars via de nouvelles émissions d'euros obligations. Cette année, le 18 avril, la banque a remboursé l'euro-obligation de 500 millions de dollars émise en 2019, a déclaré hier la direction de la banque lors de l'Assemblée générale extraordinaire à Lomé. Cette année, les actionnaires ne percevront pas de dividendes sur les bénéfices. Après la République du Congo, le projet de création d'une école de formation de l'Union des avocats d'Afrique centrale a été présenté cette semaine au Premier ministre gabonais Raymond Dongsima. Maître Patrice Monté, président de l'organisation, a rappelé que l'école régionale d'avocats est un projet ancien qui permettra d'harmoniser la profession dans la région.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Malawi se relance grâce à une victoire convaincante sur Sao Tomé et Principe.
Le Malawi a ravivé ses espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en battant Sao Tomé et Principe 3-1 à Lilongwe. Les buts de Chawanangwa, Renjesi et Chifundo ont permis aux Flammes de grimper à la 3e place du groupe H avec 6 points. Sao Tomé et Principe restent derniers sans aucun point en 3 matchs.
Le Soudan bat la Mauritanie à Nouakchott et la Libye remporte une victoire cruciale.
Le Soudan et la Libye ont remporté des victoires importantes lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour l'Afrique. Le Soudan a battu la Mauritanie de 0, prenant la tête du groupe B. La Libye a gagné de 1 contre l'île Maurice, dominant le groupe D. La Guinée-Bissau a fait match nul 0 but partout contre l'Éthiopie, maintenant sa 2e place dans le groupe A.
Mondial féminin des moins de 20 ans, le Maroc, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun connaissent leurs premiers adversaires.
Le tirage au sort de la Coupe du Monde féminin U20 de la FIFA Colombie 2024 a eu lieu à Bogota. 4 nations africaines, Cameroun, Ghana, Nigeria, Maroc, y participent. Le Cameroun, pour sa première participation, affrontera la Colombie, l'Australie et le Mexique. Le Maroc jouera contre l'Espagne, le Paraguay et les États-Unis. Le Nigeria se mesure à l'Allemagne, la Corée et le Venezuela. Et le Ghana défiera le Japon, l'Autriche et la Nouvelle-Zélande. Le tournoi débute le 31 août.
Paris sportif, 3 Américains inculpés de fraude avec la complicité d'un joueur de NBA.
3 Américains sont accusés de fraude au Paris sportif impliquant un basketteur NBA lors de 2 matchs cette année, a annoncé jeudi le parquet fédéral de New York. En avril, la NBA avait suspendu à vie Jontae Porter des Toronto Raptors pour paris sportif truqué. Selon la presse spécialisée, une source judiciaire, le joueur américain de 24 ans mentionné dans l'acte d'accusation du parquet fédéral de Brooklyn est sans doute Jontae Porter. Avec sa complicité, Timothy McMack, Mahmoud Mola, Long Phi Pham, alias Bruce, et d'autres ont élaboré un plan pour frauder une plateforme de paris sportifs en ligne, selon une enquête du FBI. Alerté par les sociétés de paris en ligne, le FBI a analysé les messages et les mouvements d'argent entre parieurs sur leur téléphone portable. Timothy McCormack et Mahmoud Mola ont été inculpés jeudi et libérés sous caution, tandis que Long Phi Pham a été arrêté lundi à l'aéroport JFK, en partance pour l'Australie avec une somme d'argent liquide. Depuis une décision de la Cour suprême en 2018, la majorité des États américains ont légalisé les paris sportifs.
Page de sport signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, la manifestation prévue ce vendredi à Bamako n'a pas fait recette car les Maliens ne sont pas sortis. Cette manifestation entendait dire non à la vie chère et aux coupures d'électricité. Les organisateurs ne sont pas venus au rendez-vous. Et notre correspondant dans la capitale malienne, Mohamed Danyoko, fait le point.
En cet après-midi de vendredi, dans la capitale Bamako, des groupes de policiers sont visibles devant l'école normale supérieure, au pied du monument de l'indépendance et autour de la place de la liberté, où devait se tenir la mobilisation de la synergie d'action pour le Mali pour protester contre les coupures de courant et la vie chère. Après plus de 2 heures d'attente sur les lieux, sans voir l'ombre d'un manifestant, nous avons quitté la place de la liberté. Joint au téléphone, Youssouf Diawara, membre de la Synergie, nous dit ce qui s'est passé.
La marche s'est tenue, mais dans des conditions vraiment difficiles. Mais on a pu tenir notre marche parce que l'itinéraire qu'on s'était fixé, on a quitté là-bas pour venir à la place de la liberté. Donc la mobilisation, on a compté sur le peuple malien parce que nous estimons que le combat qu'on est en train de mener, c'est pour nous. Donc on avait fait appel au peuple. Voilà, donc pour nous, l'objectif a été atteint.
Enseignant-chercheur, spécialiste des questions politiques, Dr Ahmadou Touré estime qu'une mobilisation, alors que des efforts sont en train d'être faits pour trouver une solution à cette crise du courant, n'était pas évidente.
Sur la question des manifestants à Bamako qui chercheraient plutôt une amélioration des conditions d'électricité, cette manifestation, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Car le gouvernement, avec son président de la transition, a entrepris des démarches dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en leur octroyant plus d'énergie et d'électricité. Et pour ce faire, hier, il y a eu une réception de 15 groupes électrogènes. C'est un premier lot. Un deuxième lot est en cours de 10 groupes électrogènes.
Avant cette mobilisation, la Synergie avait pour toujours dénoncé la coupure, initié l'opération Bougie, qui consistait à une marche silencieuse avec des bougies dans les rues où il y avait des coupures de courant. Cette initiative, qui selon ses initiateurs avait pour objectif d'attirer l'attention des autorités sur la question et qui a été écoutée, n'a pas permis de gérer la crise de l'énergie. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au moins 54 personnes, parmi lesquelles 3 Américains, 2 Britanniques et 1 Belge, arrêtés dans le cadre de la tentative présumée du coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa, ont comparu devant le tribunal militaire à la prison de haute sécurité de Ndolo, à Kinshasa. Eddy Sango a joint à Lubumbashi, l'avocat et coordonnateur de l'ONG Justicia Asbel, Timothée Mbouya.
Il y a une audience introductive qui veut dire que les prévenus procédaient à la déclaration de leurs identités. Donc chacun donnait ses identités, disait son nom, d'où il était, de quelle nationalité il était, et ainsi de suite. Et donc parmi les personnes arrêtées, il y a évidemment une des figures les plus connues qui est M. Jean-Jacques Ondo, un expert sur les questions militaires en République démocratique du Congo.
De quoi sont-ils reprochés? Parce que quand vous parlez de Jean-Jacques Ondo, on n'a pas cité pendant qu'il y avait coup d'État, peut-être qu'il a été arrêté après, mais qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors justement, il y a des personnes qui ont été appréhendées sous les lieux de l'infraction et pendant même que l'infraction s'est commettée. Il y a aussi des gens qui ont été arrêtés plus tard dans les cadres des enquêtes.
Alors Jean-Jacques Wondo, il est poursuivi dans les cadres de la participation criminelle en bande armée. Donc il y a une bande, il y a un groupe de personnes qui détenaient des armes et qui visaient à renverser le pouvoir. En plus de son expertise sur les questions militaires, jusque là on lui reproche le fait qu'il aurait aussi donné pas seulement des conseils mais également des moyens qui auraient permis à ces personnes d'opérer. Alors, je savais que c'était un expert indépendant, un écrivain, quelqu'un qui a beaucoup écrit et d'ailleurs moi j'ai presque tous ces ouvrages sur l'armée en RDC.
On parle d'étrangers. Vous avez dit qu'on a identifié aujourd'hui les accusés. Est-ce qu'on a pu avoir la preuve de la nationalité de chacun? On parle des trois Américains, des Belges, des Britanniques, dont Wondo.
La première chose à retenir, c'est que chacune de ces personnes déclare ses identités. Et la deuxième, le ministère public, ou si vous voulez l'auditeur, présente devant les tribunaux les quelques pièces qu'il a obtenues de ces personnes qui attestent qu'ils sont issus de ces nationalités-là. Dès l'entame déjà de ce procès, on se rend compte que la procédure a été très sérieusement biaisée, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'après avoir, déclaré leurs identités, les prévenus vont devoir refuser ou réfuter en bloc les différents procès-verbaux qui ont été obtenus par l'armée dans le cadre des auditions qui ont été faites sans respect de la loi et de la procédure. Il y a une autre procédure qui va devoir être enclenchée contre les personnes identifiées comme auteurs d'exécutions sommaires. Mais on aurait bien voulu que ces personnes-là soient condamnées dans une procédure de flagrance parce qu'on a vu que, justement, pendant qu'ils étaient en train de commettre leur fait, ils étaient également en train de se filmer.
Timothée Mbouya, avocat et coordonnateur de l'ONG Justicia HBEL.
Bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
La plus jeune parlementaire du Malawi, Finès Magonjwa, a pris la tête de la lutte contre les obstacles qui empêchent du moins les jeunes d'entrer en politique. Cette jeune femme a pris ses fonctions de législatrice dans le district de Machinga, dans la région orientale du Malawi, lorsqu'elle avait 24 ans. Elle admet que les jeunes se heurtent à une forte résistance lorsqu'ils se présentent aux élections, bien que la population du pays soit majoritairement jeune. Reportage de Chimwemwe Padata depuis Lilongwe au Malawi. Le récit est de Nani Talani.
Finès Magonjwa est devenue la plus jeune législatrice du Malawi après avoir obtenu un siège parlementaire lors des élections de 2019 à l'âge de 24 ans. Elle a maintenant 28 ans et a un message pour les jeunes aspirants politiques.
Il est temps pour nous de nous battre pour ces postes. Nous pouvons y arriver, que vous soyez du DPP, du Parti du Congrès du Malawi, MCP ou de n'importe quel autre parti. Allez-y, allez vers les postes les plus importants, parce que le Sénégal nous a appris que les jeunes peuvent accéder à n'importe quel poste.
Mayamiko Kambewa, 35 ans, est un jeune candidat à un siège parlementaire pour les élections de 2025. Il dit que les contraintes financières reste le plus grand obstacle.
Les gens attendent beaucoup d'un homme politique au Malawi. Lorsqu'ils voient un homme politique, ils s'attendent à ce qu'il leur donne de l'argent. C'est donc un autre problème que nous avons en tant que jeunes, parce que nous n'avons pas assez d'argent à donner aux gens pour acheter des choses pour les gens. C'est un très grand défi que nous devons relever en tant que jeunes politiciens.
L'Union des jeunes politiciens du Malawi plaide en faveur d'une participation accrue des jeunes à la vie politique. Elle a fait pression pour la réduction des frais de nomination pour les jeunes candidats lors des élections de 2025.
Nous voulons faire pression pour qu'ils réduisent les frais de candidature pour les conseillers de quartier et les membres du Parlement qui se présenteront en 2025 de manière à ce qu'ils soient réduits à 50%. En l'état actuel des choses, les frais de candidature sont de 75% pour tous les candidats de moins de 35 ans.
L'analyste politique Victor Tipofia a mis les jeunes au défi de rester proactifs afin d'augmenter leur représentation en politique.
La plupart des jeunes pensent que c'est la responsabilité et le devoir de l'ancienne génération des politiciens de donner aux politiciens. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens eux-mêmes doivent se lever pour occuper ces postes.
La politique nationale de la jeunesse du Malawi préconise une représentation de 30% des jeunes dans les structures de gouvernance. Le ministre de la Jeunesse admet qu'il est difficile de satisfaire à cette exigence.
Il s'agit davantage d'une question de genre que d'une question de jeunesse. C'est pourquoi nous nous éloignons maintenant de ce discours pour commencer à inclure davantage les jeunes sans nous limiter à la question du genre.
Les zones reculées du Malawi deviendront bientôt des terrains de campagne pour les candidats qui se préparent aux élections générales de 2025. Ces zones sont toutefois considérées comme difficiles à atteindre par les jeunes candidats qui sont pour la plupart financièrement limités. D'un autre côté, les jeunes disposent d'un certain nombre d'avantages. Ils constituent la majorité du pays et, avec de la détermination, certains d'entre eux finiront par se hisser au sommet.
Les dirigeants du monde entier et les anciens combattants sont rassemblés pour les cérémonies du jour J sur les plages de Normandie en France. Les villes de la région ont aussi organisé leur propre commémoration du 80e anniversaire du débarquement des Alliés en 1944. Lisa Bryant nous parle de la ville normande de 40 ans, les Marais, le récit avec Alexandrine Loulon.
Le défilé de 40 ans a mis du temps à démarrer. Mais l'attente en valait la peine. Les festivités s'étendent bien au-delà du 6 juin. Il y a 80 ans, des milliers de soldats alliés ont débarqué sur les places normandes. Ce jour-là, l'Europe a commencé à se libérer de l'occupation nazie. Les habitants de 40 ans n'ont pas oublié, dit le soldat américain Logan Crawford.
Beaucoup de gens sont venus. Ils nous ont remerciés et nous ont demandé des autographes.
Jean-Pierre Lhonneur est le maire de 40 ans, les Marais.
80 ans de paix et de liberté à Nairobi, c'est grâce à nos libérateurs. Nous sommes très favorables à l'UE et à l'OTAN pour défendre la liberté dans nos pays.
C'est la touriste américaine Holly Dundalk.
Je pense qu'il est important d'aider nos alliés, où qu'ils soient, parce qu'un jour, ils nous aideront certainement en retour.
Les dirigeants de plus de 20 nations, dont le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont assisté aux événements. La liberté, la démocratie et la mémoire ont été les principaux thèmes, alors que la guerre en Ukraine fait rage aux portes de l'Europe. La Russie, ancienne alliée, n'a pas été invitée aux cérémonies.
Et il avait 17 ans.
Le père de Bernard Lafarge a fait partie de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à l'attaque d'un convoi allemand.
Et j'ai reçu, il est décédé en 2015, et j'avais reçu des courriers de la préfecture me demandant si mon papa accepterait enfin la Légion d'honneur. J'étais très étonné, et j'ai donc pris contact avec cette personne qui m'a dit « Monsieur Lafarge a refusé deux fois la Légion d'honneur ». Et j'ai su pourquoi, parce qu'il avait vu ces jeunes soldats allemands donc décédés devant ses yeux.
Maureen Roberts a vécu à Paris lorsqu'elle était enfant. Sa famille est partie pour l'Angleterre juste avant l'arrivée des occupants nazis. Son père a participé à la construction de l'avion Spitfire, utilisé pendant la guerre. Elle craint un nouveau conflit.
Nous avons peur, je pense, parce qu'il y a trop de gens qui sont trop désireux de prendre le fusil en premier.
Les entretiens menés ici révèlent un courant d'anxiété similaire à celui qui sous-tend les célébrations du jour J de cette année. Le sentiment que les décennies de paix d'après-guerre pourraient ne pas durer parce que la guerre se poursuit en Ukraine, aux portes de l'Europe.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Michel Joseph, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 et TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vivant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et de discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis.